Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Jean-Philippe Bouchard, nous parlons ensemble de la communication non-violente. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, les émotions refoulées. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres, sa chronique, les bénéfices et inconvénients d'un vrai baiser. On commence en chanson avec Ariane Moffat, la chanson s'intitule « Jouer ». Bienvenue chez nous.
Vous êtes branchés sur Folie douce. Soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle.
J'accueille maintenant mon invité, Jean-Philippe Bouchard. Bonjour Jean-Philippe.
Salut.
Bienvenue à l'émission. Tu es formateur certifié chez Spiralis. On va parler ensemble de la communication non-violente en ces temps un peu fous. On a l'impression qu'il y a plus de communication encore violente ces jours-ci. On va faire le point là-dessus. Mais d'abord, j'aimerais que tu me présentes, que tu te présentes toi, mais que tu me présentes aussi Spiralis. Qu'est-ce que c'est?
C'est une école. J'allais dire une école pour adultes, mais même pour devenir adulte. Justement, on parlait de non-violence parce que c'est tellement important, la non-violence, actuellement. Ça s'appelle comme ça, la non-violence, d'ailleurs, parce que Marshall Rosenberg, le père de l'approche, voulait vraiment honorer Gandhi, qui a fait des changements majeurs sociaux en utilisant la non-violence.
Okay.
Mais souvent, quand on parle de non-violence, on a tendance à penser à de la violence même physique. Mais on a beaucoup de violence verbale aussi. On le vit, la violence écrite même beaucoup. Dans les médias sociaux, les réseaux sociaux.
Ouais.
Et nous, notre école, en fait, ça fait 17 ans qu'on existe et qu'on... Vraiment, moi, je dis que notre mission, c'est d'amener plus d'authenticité et plus de bienveillance dans le monde en développant vraiment des compétences de communication. Donc, ça se veut quelque chose de très concret, malgré l'aspect philosophique de la chose, très concret de développer des compétences de... d'être capable de s'exprimer correctement, de mettre ses limites, de dire ce qu'on veut pas, de nommer nos besoins, de faire des demandes pour aller vers ce qu'on veut. Et l'autre partie de la compétence, c'est bien sûr l'écoute empathique, de savoir qu'est-ce que l'autre, nos partenaires,
nos collègues,
oui, exactement, nos partenaires de vie,
les membres de famille.
Exactement, tout le monde. Ouais. Et donc, ce qui est le fun avec la CNV, donc communication non-violente, on appelle ça la CNV, ça s'adresse vraiment à tout le monde qui veut améliorer ses communications avec les personnes importantes de leur vie.
Oui, mais on parle donc de la formation de cette école Spiralis il y a 17 ans. Donc,
17 ans.
Avant l'impact des réseaux sociaux, tu sais, on sort 17 ans, ça commençait peut-être, là.
Oui.
Mais pourquoi... Qui et pourquoi avoir fondé cette école?
Écoute, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. J'ai rencontré ma conjointe Valérie, qui est cofondatrice de Spiralis.
Okay.
Et on était... Tous les deux, on s'est rencontrés dans un atelier de CNV. Et tous les deux, on était à la recherche d'amener vraiment cet aspect-là de la bienveillance, autant dans les couples, dans les familles, que dans les organisations. Et on a réuni nos efforts pour offrir des ateliers, du coaching... qui permettent de développer ces aspects-là.
Donc, l'histoire est aussi simple que ça et aussi, en fait, ça a un but très, très altruiste et très, très bon. Là.
C'est vraiment altruiste. Ouais. Et en même temps, un des défis, c'est que de parler de bienveillance puis d'authenticité, c'est une chose. Il y a beaucoup de philosophes, même de vieilles sagesses hein, qui parlent de ça, mais de l'appliquer... dans son propre couple, ce qui était notre cas. On dit, OK, on va l'appliquer pour vrai, pas juste pour l'enseigner.
Ouais, on ne sera pas des cordonniers mal chaussés.
Exactement. Ouais. C'est un beau défi. Puis même, c'est un projet aussi entrepreneurial, Spiralis. Donc, on est une petite équipe de 8 personnes. On a une dizaine de formateurs qui travaillent avec nous. Comment on est capable d'appliquer ça aussi à un modèle d'affaires qui fonctionne, qui est porteur, et on est très fiers là, de fêter nos 17 ans.
Oui, c'est bravo, c'est excellent. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est la communication non-violente? On a une bonne idée, là, mais comment on peut expliquer ça assez facilement? J'imagine que vous êtes habitué de le faire. Là.
Oui, absolument. La communication non-violente, on peut regarder, il y a un aspect philosophique, il y a un aspect relationnel, puis il y a un aspect très pragmatique à ça. Premièrement, c'est une philosophie de... vraiment croire que la vie, elle veut vivre en nous et qu'on est capable de se connecter à cette vie-là qui vit en nous de façon très concrète, qui fait en sorte qu'on est capable de suivre nos élans, de s'amener dans le monde avec notre authenticité tant qu'on accueille l'impact qu'on a avec bienveillance. Parce que c'est toujours ça, la vie d'être humain, c'est qu'on veut, on a des élans, on veut des choses, on amène des choses dans le monde et en même temps, on a l'impact sur les autres. Donc, c'est vraiment une philosophie qui propose, qui met au cœur l'authenticité et la bienveillance. Le « et » est vraiment important, parce que si je suis que authentique, qu'est-ce qui se passe? C'est que je dis toute ma vérité, je m'amène dans mes forces, mais je ne prends pas conscience et je ne prends pas en considération l'impact sur les autres. Puis si je suis que bienveillant, ben là, on tombe un peu même dans la gentillesse où toutes les autres passent avant moi, ce qui fait en fait que je m'épuise et je ne suis plus très disponible moi-même. Donc, comment amener ces deux aspects-là, authenticité et bienveillance? C'est ce que la CNV nous amène. Et l'autre aspect de ça, c'est que pour être capable de s'amener dans le relationnel, avec une certaine puissance et une certaine empathie, il faut être capable de se connecter à soi. Qu'est-ce qui, moi, se passe pour moi? Et donc, c'est les trois aspects de la compétence de la CNV qu'on amène. Donc, capacité d'expression avec authenticité, capacité de bienveillance dans notre écoute et capacité de connexion à soi avec auto-empathie.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples peut-être d'interventions que vous faites comme formateur, plusieurs formateurs, là, soit dans les entreprises, soit dans les milieux scolaires? À quoi ça peut ressembler, en fait, l'intervention que vous faites?
Typiquement, l'introduction en CNV, c'est une formation de 2 jours, une formation de groupe qui permet de vraiment comprendre ce que je viens de dire de manière très pragmatique. Donc, vous venez, vous participez, c'est des groupes de 20-25 personnes qui permettent de se découvrir, découvrir la méthode, découvrir aussi comment les autres l'appliquent parce que ça se veut quelque chose qui est agréable, qui est profond et en même temps qui fait faire des bons de conscience à tout le monde.
Et avec le temps que ça prend de le faire, c'est pour ça que, dans le fond, un certain nombre de temps, ça prend quand même ça.
C'est pour ça qu'on parle de 2 jours. Il y a un livre de Marshall Rosenberg qui est vraiment super, un autre livre de Thomas Nansambo, « Ça essaie d'être gentil, soyez vrai », juste le titre est très parlant.
Ouais.
Et c'est vraiment le fun de lire le livre. Mais pour vraiment le vivre, l'intégrer, ça se fait dans un champ social. Donc, c'est pour ça qu'on ouvre des ateliers, autant pour le grand public, qui vient essayer ça. Pour les couples, c'est un classique dans les couples, hein, de comment avoir un couple qui dure dans le temps, qui est agréable, où la relation est épanouissante.
Oui, que chacun s'épanouit aussi.
Exact.
Pas s'oublier,
Puis ce qui est drôle dans les couples, c'est qu'il y a des couples qui viennent, qui sont tout jeunes, qui veulent vraiment là, commencer sur une base solide. Il y en a qui sont dans des crises de « OK, comment on fait pour rester ensemble maintenant qu'on, je sais pas moi, les enfants sont partis, par exemple? Qu'est-ce que ça veut dire? » Puis il y en a même qu'ils sont plutôt très expérimentés comme couple. Ça fait même 25 ans qu'ils sont là. Ils disent « Hey, comment je pourrais me renouveler comme couple? » Fait que ça, c'est vraiment agréable.
Des fois, on est des colocs. Hein, on se rend compte que ça fait des années qu'on est colocs. Puis peut-être que, dans le fond, on ne cherche pas la confrontation, mais il y a moyen de communiquer de façon non violente, justement.
Ben même, j'aime ça que tu nommes l'aspect coloc, parce que la CNV, c'est une invitation à plus d'intimité. D'intimité relationnelle, d'intimité émotionnelle. Fait que comme couple, c'est vraiment important. Comme famille, c'est important. Puis même, j'ajouterais que dans les équipes de travail, c'est important pour être capable de générer de l'engagement, surtout à l'ère où on travaille de la maison
souvent.
Comment on crée de l'engagement? Parce que l'engagement, c'est une qualité de cœur. C'est pas vrai qu'on travaille que pour avoir un chèque de paye. On travaille aussi.
C'est un milieu de vie. Là.
Ben oui, exact.
Puis, on côtoie des gens, on ne veut pas que ça soit désagréable. Les gens vont souvent même, je pense, refuser un emploi plus payant s'ils sont plus heureux dans un emploi où, justement, ils communiquent mieux. Là.
Exactement. Ouais. Et ça nous amène à l'autre aspect qu'on fait beaucoup à Spiralis, c'est la gestion de conflits où quand ça va moins bien dans les équipes de travail, dans le couple, dans les familles, comment on peut faire pour garder cette bienveillance-là, même s'il y a des désaccords, même si on vit de la colère, même si on voudrait prendre des directions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, comment on peut se parler pour qu'on se comprenne les uns et les autres?
Ouais. C'est pas facile, spécialement dans nos années. On en parlait tantôt, plus tôt dans l'entretien avec les réseaux sociaux. Tout ça, on a l'impression que les gens ont perdu une notion d'empathie ou en tout cas de savoir-vivre, puis je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a l'impression qu'on a régressé au niveau de la communication. T'sais, on était mieux, je dirais, il y a 30 ans à ce niveau-là. Puis est-ce que des fois tu réfléchis à la situation actuelle? Comment tu la vois?
Oui. Puis tu entends un peu dans ma voix le petit découragement des fois qui arrive. Et en même temps, je te dirais, ça amène des gens à dire hey, « moi, je veux faire autrement ».
Ouais.
Parce que ce qui se passe, entre autres à cause de la distance que le clavier permet, entre autres dans les médias sociaux, il n'y a comme pas d'impact. C'est, tu disais une perte d'empathie. Je pense que là, je te parle, je suis en face de toi, je ressens.
On voit les réactions, c'est ça.
Et c'est plus dur de t'insulter sans être moi-même impacté par même l'insulte que je te donne.
C'est sûr. C'est vrai, c'est peut-être une cause. La distance fait que tu as l'impression que c'est virtuel, tu sais.
Oui.
Mais tu t'adresses quand même à une vraie personne,
oui,
de l'autre côté.
Exact. C'est ça? Exactement. Et le fameux retour à soi, c'est-à-dire de « wow, qu'est-ce que je vis si je ne suis pas d'accord avec cette personne-là qui a une opinion opposée à moi?
Ouais. »
Est-ce que l'opinion opposée me menace moi? Est-ce que… Puis c'est ça la grosse question de la communication non-violente, c'est… Un, qu'est-ce que ça me fait à moi? Qu'est-ce que je vis par rapport à ça? Qu'est-ce qui est heurté dans le fait que tu aies une opinion qui est différente? Et deux, je peux-tu m'intéresser à, wow, cette opinion-là, elle vient d'où pour toi, Yvan? Qu'est-ce qui se passe? Et de vraiment m'intéresser à l'autre. Donc, cette capacité-là de questionner juste ce qui est dit puis de regarder en dessous de simplement les comportements et les paroles, c'est une des habiletés importantes qu'on apprend en CNV.
Les gens ne savent peut-être pas quel ton adopter. Tu sais, des fois, tu n'es pas d'accord avec quelqu'un. Comment t'exprimes ça? Sans choquer la personne, sans en mettre trop, sans, tu sais, en étant clair, mais en étant quand même correct là, dans sa façon de faire. C'est pas évident.
Et c'est là que la CNV a une grande force. C'est un outil très pragmatique. Fait que si je veux te parler, Yvan, de quelque chose avec lequel je suis pas d'accord avec toi. Mettons que tu arrives en retard à nos rencontres, puis que là, je vis de la frustration.
Ouais. Est-ce que tu as attendu?
J'ai attendu tout ça. Puis ça fait 3-4 fois en plus. Fait que là, je commence à avoir un peu de ressentiment envers toi.
Première réaction, ça va être de garrocher ça.
Exactement. Il y a deux réactions typiques. Soit je te dis, comment on y va? T'es bien pas professionnel. Ouais. Et là, je t'attaque.
Là, ça part tout de suite. Le niveau part déjà avec une agressivité.
L'autre façon de faire, ça serait, je te dis rien, mais je te rappelle plus. Ou je t'en veux, ou ça va me prendre longtemps. Tu vois, il y a
c'est presque de la violence silencieuse, mais oui. On ressent quand même.
Oui, puis quand moi, je te parle pas, je suis violent envers moi-même, parce que si ça me frustre ce que tu vis.
C'est...
Exact. Fait que si je veux te dire ça, comment je peux te le dire de façon non-violente? Ouais. C'est que je vais te parler, en fait, à partir de moi, je vais prendre responsabilité. Écoute, Yvan, ça fait 3-4 fois qu'on a des rencontres, puis t'arrives 10 minutes après l'heure qu'on s'est fixé.
Ouais.
Je veux te dire que moi, là, ça me décourage un peu. J'ai tellement... mon temps est tellement précieux. Puis je veux vraiment avoir de l'efficacité puis même de la collaboration avec toi. Puis là, ça fait pas ça. Est-ce que tu serais d'accord d'ouvrir... Qu'est-ce qui se passe pour toi que tu arrives 10 minutes en retard? Puis peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça arrive plus?
Ouais, effectivement.
Fait que si je te dis ça
déjà,
comme ça...
Déjà, ça part mieux.
Oui, tu as envie peut-être de répondre. Il y a une explication qui va avoir là. Je t'attaque pas, je te parle de l'impact sur moi.
C'est ça.
Et ça, c'est un aspect vraiment important pour parler de nos inconforts, nos colères, nos ennuis, nos heurts même dans les relations qui sont inévitables.
Il faut apprendre à mieux communiquer. C'est presque tout le temps qu'on a déjà. Ça passe énormément vite. Comment on peut en savoir plus sur Spiralis? Peut-être les coordonnées?
Absolument. Spiralis.ca. Simplement, on donne des formations publiques, donc vous pouvez aller voir le calendrier, on donne des introductions de 2 jours, on a un programme d'une année qui permet de vraiment l'intégrer, ça c'est 7 week-ends, on a même une 2e année, on a un atelier pour les couples et il y a quelques formations qu'on peut faire en ligne où on fait simplement acheter et on peut les suivre à notre rythme.
Bien, c'est super, merci beaucoup Jean-Philippe Bouchard d'avoir été des nôtres et puis tu es formateur certifié chez Spiralis et on a parlé de communication non violente. C'était fort agréable et très instructif. À la prochaine, merci.
Merci beaucoup Yvan.
Au revoir.
Au revoir.
est-ce que ça recommence encore?
Notre site web est la porte d'entrée vers tous nos contenus et réseaux sociaux. Branchez-vous sur antenne.qc.ca. Antenne.qc.ca.
Bonjour Pierre Lapoie.
Salut Yvan.
Alors aujourd'hui, ton sujet, les émotions refoulées.
Oui, les émotions refoulées. Et on en a tous, hein, des émotions qu'on doit refouler. En fait, on est presque obligé, sinon carrément obligé de refouler notre colère ou... oui, parce que ça peut occasionner toutes sortes de circonstances fâcheuses. D'autres émotions aussi que c'est préférable de refouler, comme la peur, par exemple. On veut pas inquiéter nos proches,
ouais,
avec toutes sortes de choses. Alors, cette semaine, je me suis inspiré de deux articles. Le premier article que j'ai trouvé sur Internet, ça s'appelle « Ne pas exprimer ses émotions ». Quelles conséquences? Et j'ai pris ça sur le site Santé Magazine, un site français. Un article écrit par une dame du nom de Mathilde Pujol, qui est journaliste. Et cette dame Pujol nous dit « Nous avons trop tendance à considérer nos émotions comme des signes de faiblesse qui doivent être réprimés. Pourtant, ces réactions de l'organisme sont essentielles. Et notre anxiété cache souvent une mauvaise gestion des sentiments. Apprendre à identifier et à exprimer nos émotions permet de prendre soin de sa santé mentale et physique. Dans notre société où la pression pour réussir et les défis émotionnels se succèdent, nous avons à notre disposition de nombreux outils pour bloquer et éviter nos émotions. Par exemple, l'alcool et la drogue et les médicaments en font partie. Or, ce réflexe est mauvais pour la santé physique et mentale, nous rappelle l'experte en psychothérapeute Mme Hilary Jacobs-Handel. Les émotions sont des réactions tant physiologiques que psychologiques face à une situation perturbante ou à une difficulté. Elles provoquent chez l'individu des sensations et manifestations physiques comme des mouvements de fuite, une accélération du rythme cardiaque, une boule dans l'estomac, des tensions physiques, des éclats de rire, des larmes et parfois des crises d'asthme, et etc. Tout ceci témoigne de puissantes sensations intérieures. Les émotions sont la vie, nous dit cette Madame Pujol. C'est presque une banalité de le dire. Les principales sont la joie, la tristesse, le désir, la peur, le dégoût, la colère et autres. Je me rappelle, Yvan, d'avoir appris en quelque part que les émotions, on en aurait environ 72, 73... pas loin de 75 là, qu'on peut nommer.
Ah oui, quand même.
Ouais. J'aurais pensé qu'il y en avait encore plus, mais c'est ce que les spécialistes entendent.
On a l'impression qu'on en a moins, parce que souvent, ça se résume, la colère, la tristesse, ces choses-là, mais effectivement, comme tu dis.
Alors, Mme Pujol nous dit « Les émotions sont enfin des réactions d'adaptation aux événements de la vie quotidienne. Elles prennent leur essor dans la région de ce qu'on appelle l'amygdale cérébelleuse, un groupe de neurones en forme d'amande situé assez profondément dans le cerveau. L'implication de l'amygdale est ainsi démontrée aujourd'hui par les neurosciences, par l'imagerie à résonance magnétique dans l'activation du circuit de la peur. Le propre des émotions, c'est leur puissance. Elles nous donnent la sensation de pouvoir tout emporter sur leur passage. Elles représentent un risque de perte de la maîtrise de nous-mêmes, de notre corps, de notre intelligence et de l'image que nous donnons aux autres. Par exemple, la colère peut déboucher sur la violence. La joie peut nous amener à nous ridiculiser, du moins le craignons-nous. Nos émotions nous font donc peur et nous avons peur des émotions des autres puisque nous connaissons trop bien la puissance des nôtres. Au niveau social, elles font craindre le désordre et toutes les civilisations prohibent d'une façon ou d'une autre l'expression incontrôlée des émotions. Elles les admettent sous des formes organisées et bien canalisées. Fondamentalement, l'émotion fait craindre la pulsion, soit le passage à l'acte. L'alexithymie, ou l'absence d'émotion, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'alexithymie, c'est un déficit de l'émotion. Un individu alexithymique a des difficultés à pouvoir communiquer ses sentiments et une incapacité à les identifier et pouvoir les distinguer de ses sensations corporelles. Les causes sont souvent traumatiques, c'est-à-dire suite à un choc émotionnel ou culturel ou éducationnel. Mais je pense qu'on en connaît tous, Yvan, des gens qui semblent avoir peu d'émotions, ou en tout cas semblent en avoir
il,
peu.
Ils ne les montrent pas autant que probablement qu'ils ressentent à l'intérieur. Là.
Oui, probablement, oui. Ouais. On nous dit dans l'article que ces sujets éviteraient toute situation de confrontation avec leurs émotions, nous dit Mme Céline Jouanne, qui est psychologue. C'est un trouble psychosomatique qui n'est pas sans conséquence sur la santé physique et mentale de l'individu. Ils évitent de consulter un psychologue, mais leur parcours les amène toutefois de façon habituelle dans le milieu médical pour des problèmes dont les conséquences peuvent être sérieuses. Comme des troubles, par exemple, du comportement alimentaire, des états de stress post-traumatique, des abus de substances psychoactives, etc.
On poursuivra plus amplement plus tard à l'émission, donc le même sujet, les émotions refoulées. Merci Pierre.
Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie Douce. Écoutons-les.
C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Une autre excellente chronique, je présume. Aujourd'hui, tu vas nous parler des bénéfices et des inconvénients d'un vrai baiser, ou en tout cas les bienfaits d'un baiser.
C'est ça, les bienfaits et les inconvénients d'un French.
Ouais, par exemple.
Mais évidemment, quand on parle de French, on parle en général positivement, mais sauf si on a eu de mauvaises expériences, tout le monde en a. Mais en général, on pense positivement, ça a des effets bénéfiques, même si on n'y pense pas comme ça. Ouais. Mais scientifiquement, ça a des effets bénéfiques. Et ça touche trois zones, on va dire. D'abord, l'estime de soi, parce qu'on se sent plus aimé encore que d'habitude. Et on est confiant, après un bon French. Et on est beaucoup mieux, on est moins stressé, si on va au boulot après, on a plein d'énergie pour le boulot, on est plus productif, donc c'est assez positif pour l'estime de soi.
La vie est plus belle.
La vie est belle après.
Mais tu me dis, ça a été prouvé scientifiquement, donc il y a eu des volontaires, j'imagine.
Il y a eu des volontaires. Mais c'était pas en labo 1, 2, 3, French chez vous.
En fait,
je vais vous raconter que c'est plutôt une étude sur des gens qui ont été nouvellement conjoints, mariés ou conjoints, et on a testé leurs 6 premiers mois après 6 mois de cohabitation.
Okay.
Et de là, on a vu ce qui se passait. Bon, évidemment, je vous parle des effets bénéfiques, là, comme l'estime de soi, ça nous rend plus heureux aussi de manière générale. Pourquoi ? Ben parce qu'on a un shoot de... si je puis me permettre, d'endorphines, de dopamine, d'ocytocine, toutes ces bonnes petites choses.
Toutes ces drogues naturelles.
Toutes ces drogues naturelles qui nous aident à nous sentir mieux, comme après une bonne balade ou d'autres choses agréables. Donc, ça nous aide aussi à lutter contre la douleur, toutes ces hormones et à se sentir mieux. Une autre chose scientifique dans les bénéfices, parce qu'après j'arrive à l'inconvénient. Alors, le bénéfice, ça, c'est plus scientifique et c'est moins ragoûtant, c'est-à-dire que ça peut aider à combattre les caries en French. Pourquoi ? Parce que quand il y a échange de salive, il y a plus de salive et la salive est un antiseptique naturel
c'est
et
vrai.
Aide à déloger la plaque.
Donc, raison de plus pour...
Vu comme ça, c'est un délogeur de caries.
Ben oui, c'est
voilà, aussi. Donc, évidemment, ça, c'est peut-être un petit peu drôle, mais c'est véritable, c'est mmh. vrai. Donc maintenant, on pourrait se dire, allez, c'est aussi noté dans ces fameuses études que les gens qui embrassent leur conjoint vont vivre, qui embrassent leur conjoint tous les jours, hein, où il n'y a pas trop de chicanes, pourraient vivre jusqu'à 5 ans de plus que les autres.
Oui, pas dur à croire, ça.
Bon.
Pas dur à croire, parce que les gens, ils se sentent plus libres. Là, t'sais. Quand il y a des conflits, c'est certain que ça stresse, ça rajoute.
C'est ça. Et puis, c'est un bon moment avant de partir au travail ou avant de partir pour commencer une journée pour autre chose. Ça aide, ça vous déstresse. Mm-hmm. Maintenant, on arrive aux choses un peu moins drôles. C'est-à-dire qu'ils ont constaté, ces chercheurs, parce que c'était ça qu'ils voulaient voir. Leur idée, c'était que le microbiote buccal était porteur de certaines bactéries. Et leur idée, c'était que les gens qui avaient des dépressions ou de l'insomnie et de l'anxiété, il y a un microbiote particulier. Et on sait que ça se trouve notamment dans les intestins, mais aussi dans la bouche. Mmh. Et leur idée, c'est que, dans le fond, est-ce qu'après une cohabitation de 6 mois avec quelqu'un où il y a du French, est-ce qu'il y a un changement de microbiote? Qu'est-ce qui se passe chez le partenaire qui était, entre guillemets, sain, gros guillemets, bien entendu, hein, puisque l'autre a de l'insomnie, de la dépression, de l'anxiété. Donc, ils ont identifié ces personnes et les conclusions étaient assez frappantes. C'est qu'ils ont identifié que leur microbiote s'est mis à se ressembler au bout de 6 mois. Donc, ils avaient développé les mêmes types de bactéries que les gens atteints d'insomnie, de dépression et d'anxiété. Alors, maintenant, il ne faut pas sauter à la conclusion tout de suite. On sait bien que quand on a un collègue aussi qui nous stresse plus, ou un enfant qui nous stresse peut-être, on va aussi... ils n'ont pas testé, ce serait intéressant de faire ça.
Ça se peut que ça ait un effet sur soi.
Exactement, tout à fait. Est-ce que le microbiote, il change parce que oui, il échange de bactéries et qu'on s'ajuste à l'autre, c'est connu. Hein. Au début, quand on connaît quelqu'un, des fois, on peut avoir mal à la gorge, etc., parce qu'on s'habitue aux bactéries de l'autre, etc. Donc, je pense que là, il ne faut vraiment pas sauter à la conclusion, et c'est d'ailleurs ce que disent les chercheurs. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est voir sur le long terme et voir s'il y a cause à effet. Mmh. Et est-ce que vraiment le conjoint va aussi, entre guillemets, attraper une dépression. On n'en est pas du tout là. Et on sait très bien qu'avoir une dépression, c'est loin d'être quelque chose qui s'attrape comme un rhume.
Et ça a
on
jamais
sait bien
été...
qu'il y a des événements qui causent ça.
Mais ça n'a jamais été dit non plus, tu sais, que la santé mentale était contagieuse.
Non, tout à fait. Non, je pense que c'est intéressant ce que ces chercheurs ont trouvé. Mais je pense qu'il y a de la coupe aux lèvres, énormément de choses à faire ici, ouais. Et surtout pas sauter de manière un petit peu idiote aux conclusions en disant que il faut pas embrasser un conjoint malade en matière de santé mentale, ça n'aurait pas de sens, évidemment. Donc, ce qu'on peut juste conclure, c'est qu'il y a un déséquilibre de la microbiote buccale, en tout cas entre dont le conjoint initial qui était atteint de problèmes en santé mentale, il communique ces bactéries. Mais ce serait normal avec n'importe qui, on communique une grippe, etc. Okay? Donc, il faut faire vraiment très attention à ça. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que le taux de cortisol aussi bouge. Donc, c'est une hormone de stress. Mais est-ce que, comme je disais plus tôt, est-ce que quand notre boss ou nous, on a eu du stress parce qu'on est travailleur autonome, est-ce que notre microbiote a changé, qu'on a eu aussi, et ce n'est pas dû à notre conjoint qu'on a du microbiote qui est changé. Donc, il y a tellement de paramètres là-dedans.
Mais c'est jamais testé ça au fur et à mesure.
Ben
on ne peut pas tester tout
mais
le monde
non.
en tout temps pour toutes les raisons. Là,
voilà, je crois que c'était un petit peu, entre guillemets, facile à découvrir ça parce que c'est sûr que quand on embrasse quelqu'un, peu importe, il y a des choses qui se communiquent et que forcément, il va y avoir un rééquilibre physiologique. Bon, ça, à mon avis, ça me paraît assez évident. Mais on sait tous que maintenant, avec l'éducation santé mentale, qu'une maladie comme la schizophrénie ou le trouble bipolaire, il y a des origines qui ne sont pas de type microbiotique, ben, en tout cas pas uniquement certainement, mais on parle ici vraiment de problèmes de production de substances dans le cerveau, etc. Donc je dis que là, je l'approche de manière un petit peu humoristique. Et il y a bien entendu énormément d'études qui vont devoir avoir lieu maintenant pour voir s'il existe vraiment une corrélation qui peut aller plus loin. Et là, ce serait intéressant parce que pour soigner les personnes, ça voudrait dire que ce serait tellement facile via le microbiote d'aller peut-être communiquer certaines bactéries pour améliorer la situation ou des antibactéries, des anticorps ou autre
chose.
C'est
possible qu'il y ait des effets. Bien, on dit que la santé mentale fait partie de la santé physique. C'est
oui,
un tout.
Tout à
c'est
fait.
Certainement
oui,
qu'il y a
oui,
des
oui.
effets physiques là, qu'on peut,
ben, oui.
on peut modifier, puis peut-être ça peut améliorer. C'est pour ça que c'est un tout. Là, on dit qu'il faut quand même s'occuper de soi, d'être plus heureux, d'être en plus d'avoir peut-être de la médication des fois, psychothérapie, etc., là.
Mais oui, et je pense que la COVID n'est pas tellement loin, et c'est sûr qu'on attrapait facilement la COVID d'un conjoint, mais on ne sait pas peut-être aussi que le fait de développer des anticorps, il y a eu des choses positives aussi à ce niveau-là. Donc c'était un petit peu pour faire de l'humour aujourd'hui, parce que oui, c'est sûr qu'il y a plus à l'heure actuelle de bénéfices à un French qu'un inconvénient. Et il n'y a pas du tout encore, de manière générale, de lien de cause et effet entre la maladie d'un conjoint et la personne qui partage sa vie. Voilà, donc je pense que tout le monde doit prendre ça de manière relative et en rire un petit peu. Et...
Est-ce que ces études-là ou cette étude-là sont récentes?
Oui, c'est très récent. Alors, il y a eu plusieurs études,
ouais.
Une étude chinoise et des études italiennes et avec d'autres pays européens. Ils ont constaté tous la même chose. Hein. Donc, oui, en effet, il y a une variation de des bactéries buccales et il y a un ajustement et qui va ressembler au microbiote buccal du conjoint qui est malade d'insomnie, de dépression, etc.
Ouais.
Mais
au départ, on voulait sûrement prouver qu'il y avait un bienfait à avoir un baiser quelqu'un d'autre.
Je ne sais pas. Je crois qu'ils cherchaient vraiment à travailler sur le microbiote parce que et à prouver quelque chose parce qu'ils sont attachés vraiment au microbiote buccal. Et en même temps, ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand on partage la vie de quelqu'un qui a de l'insomnie et qui n'est pas bien, à un moment donné, on dort mal aussi. Donc, c'est normal qu'on dorme mal et que notre microbiote change. Et ce n'est pas juste la question de partager le French.
Il peut peut-être avoir du mimétisme jusqu'à un certain point. Tu sais, des fois, on devient
de la fatigue,
ouais,
de supporter l'autre.
Les deux deviennent un presque. Fait qu'on vit
oui.
un peu les mêmes choses.
Puis on s'inquiète pour l'autre.
Ouais,
on peut
ça.
Développer de l'anxiété parce que lui a développé de l'anxiété et que peut-être nous aussi, on a un fond où on peut développer d'anxiété ou peut-être pas. Donc, je crois qu'il y a tellement de choses à vérifier avant. Et je crois que c'est juste une petite étape qui vérifie juste le microbiote buccal, mais qui ne prouve absolument rien en termes de causalité. Et il faut s'arrêter juste à ça, parce qu'on voit que juste en parlant entre quidam ici, on peut donner des contre-exemples qui diraient « oui, mais ça peut être un état de fatigue provoqué par la fatigue de l'autre, ça peut être de l'inquiétude pour l'autre ». Et c'est comme ça que, comme tu dis, une sorte de mimétisme, mais je ne crois pas du tout qu'une maladie mentale, mais ça c'est un point de vue personnel, soit contagieuse entre guillemets. Peut-être que oui, il y a un changement de microbiote, mais je crois qu'il y a un fond à la maladie mentale, ou que ce soit créé par un traumatisme ou un problème d'équilibre chimique dans le cerveau. C'est drôlement autre chose que de partager un French et de changer le microbiote buccal. Donc, il faut quand même être sérieux jusqu'au bout et dire qu'on va attendre d'autres études qui vont prendre des années et qui vont chaque fois s'arrêter sur une petite chose Et évidemment, dans des circonstances d'études, pas dans des circonstances, c'est impossible en temps réel et en milieu réel de voir ce qui se passe. Donc là, il s'agit toujours d'études.
Est-ce que dans les liens que tu nous as fournis, est-ce qu'on a accès à cette
étude? Oui, tout à fait. Vous avez accès à l'étude chinoise et à l'étude européenne dans les articles que j'ai mis en ligne.
Okay.
Tout à fait.
On va mettre ça dans notre section, mentionner à Folie Douce, comme d'habitude, dans notre site web antenne.qc.ca. Donc, merci Catherine Sassin pour cette chronique un peu différente, encore une fois. Ça nous surprend des fois les bénéfices et les inconvénients d'un vrai baiser. Donc, merci pour ça, puis à la prochaine.
Merci Yvon.
Au revoir.
Au revoir.
Tes cheveux ont poussé, je vois que ta tête a changé. Je t'aime plus qu'avant, je crois. T'as le sourire cassé. Je me dirais à moi-même que si je me reconnais pas, que si je suis plus la même, c'est peut-être grâce à moi. Et je vole encore, encore mes joies. J'en veux encore, même si je comprends pas.
De retour au micro à Folie Douce, qui se donne le mandat d'aller plus loin en dévoilant le vrai visage de la santé mentale.
De retour, Pierre, avec le sujet que tu as commencé au début de l'émission, plutôt dans l'émission, en fait, les émotions refoulées.
Oui, et parce qu'on en a tous des émotions refoulées. En fait, ce qu'on nous dit en lisant des articles là-dessus, c'est qu'on n'a pas le choix, au fond, en société, de refouler certaines, en tout cas, de nos émotions. Et j'ai pris des renseignements sur un article qui s'appelle « Ne pas exprimer ses émotions, quelles conséquences ?» Sur le site Santé Magazine, un site français, c'est écrit par une dame du nom de Mathilde Pujol. Alors, cette Madame Pujol nous dit « Les émotions sont vouées à l'expression et non au refoulement. » Pour les étouffer, notre esprit et notre corps utilisent des techniques très créatives, y compris la constriction musculaire et le fait de retenir notre souffle. Le fait de refouler ses émotions pendant un certain temps peut avoir un effet soupape, comme sur une ancienne cocotte minute. Des symptômes comme l'anxiété et la dépression, de plus en plus courants, peuvent d'ailleurs découler de la façon dont nous gérons ces émotions à ne pas ignorer. Le stress émotionnel, comme celui provoqué par les émotions bloquées, n'est pas seulement lié aux troubles mentaux, mais aussi à des problèmes physiques, comme les maladies cardiaques, les troubles intestinaux, les maux de tête, l'insomnie et les troubles auto-immunes. En cause, d'après les chercheurs en neurosciences, l'un des principaux centres émotionnels du corps est ce qu'on appelle le nerf vagal. Ça s'écrit V-A-G-A-L. Le nerf vagal déclenché par les sentiments ressentis par le cerveau, il envoie des signaux au cœur, aux poumons et aux intestins afin que l'organisme soit prêt à réagir au danger perçu avant même que l'émotion ne soit réellement ressentie par la personne concernée. Le simple fait d'écouter ses émotions, c'est sans conteste renouer avec soi-même et ainsi retrouver sa capacité à interagir finement avec autrui, à être heureux et à se sentir vivant, bien loin de cet état d'indifférence profond qui peut se développer lorsque l'émotion est systématiquement étouffée depuis longtemps. Madame Pujol nous dit « De fait, les émotions sont des phénomènes si primaires et si essentiels qu'il faut qu'elles s'expriment d'une façon ou d'une autre. La répression de toute spontanéité se paie. » En étouffant nos émotions, en bâillonnant les mots, nous ne leur laissons pour issue que le langage du corps et plus précisément de la maladie, soit les maladies psychosomatiques au niveau physique ou encore les phobies. C'est la même chose avec des émotions négatives, telles que la peine et le chagrin ou encore la colère, qui peuvent avoir des conséquences nocives et entraîner le développement de maladies. Il existe heureusement une solution à l'incapacité d'exprimer ses émotions, soit apprendre à les reconnaître pour reprendre le contrôle sur son esprit et son organisme. Or, aucune école ne propose d'éducation émotionnelle, et ces différents types de psychothérapie reposent sur l'analyse des sentiments pour guérir les souffrances physiques et ôter le poids des émotions non exprimées. Elles ne font pas encore partie des thérapies les plus courantes, mais sont pourtant une solution pour se libérer une fois pour toutes de ce frein.
Le milieu scolaire, ce ne serait pas une mauvaise chose qu'on passe de temps en temps, peut-être une fois de temps en temps, un atelier sur les émotions, mm-hmm. pour que les gens comprennent. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui est encore difficile à gérer pour la plupart des gens. Là.
Mais je sais que depuis déjà plusieurs années, il y a des endroits où on peut aller. Je ne sais pas si ça existe encore. Puis on nous fournit une grosse masse, là. C'est mieux d'être fort, c'est sûr. Puis là, on peut frapper sur des automobiles.
Non, ça c'est, ben, mettons, c'est pour sortir les émotions fortes.
Mais oui, tu sais, la colère.
Toutes sortes d'émotions, des fois, on a de la misère à se sortir. Des fois, un peu tout croche, puis ça donne, tu sais, du psychosomatique, comme tu dis. Alors, ça serait peut-être bénéfique d'avoir ça. Oui.
La psychothérapeute Hilary Jacobs-Handel déclare « Mes clients ont tendance à éviter les émotions douloureuses ou conflictuelles dans leur vie. Tout comme la plupart d'entre nous, parce que c'est ce qu'on nous a enseigné. Mais pour guérir l'esprit, nous avons besoin d'expérimenter les émotions qui accompagnent nos histoires, et celles-ci se situent dans le corps. En apprenant à identifier et à travailler avec les émotions fondamentales qui se cachent sous notre anxiété, nous pouvons réussir à prendre soin de notre esprit et de notre corps dans les situations de stress ou les périodes difficiles. » Finalement, Mme Pujol nous dit « Les activités artistiques telles que la peinture, la musique, le chant, l'écriture et les loisirs créatifs sont une alternative efficace, à la fois intellectuelle et corporelle, pour exprimer ses émotions. » Alors, dans un autre article qui s'appelle « 5 trucs pour exprimer et gérer tes émotions », c'est un texte d'une dame du nom de Lina Ekenast, qui est journaliste. J'ai pris ça sur le site Radio-Canada. Alors, cette dame nous dit, premièrement, vis tes émotions. Ça peut paraître évident, mais exprimer tes émotions, ça soulage et ça fait du bien. Si tu gardes tout en dedans, tes frustrations risquent de s'accumuler et de sortir de manière explosive.
Mais la question, c'est à qui tu en parles? C'est pas tout le monde qui est prêt à écouter. Là.
Ouais, peut-être si tu as un animal, tu as un chien.
Peut-être
ou...
que tu peux... peut-être ça fait du bien quand même.
Des poissons rouges,
ouais,
je sais pas.
Faut que tu le dises à quelqu'un ou à quelque chose.
Oui, alors, deuxièmement, fais-le à ta manière. Tout le monde vit ses émotions différemment. Être émotif ne veut pas nécessairement dire pleurer. Si tu te sens en colère, par exemple, tu peux crier dans un coussin ou aller courir ou écouter de la musique. Toutes les manières de sortir le méchant sont bonnes, pourvu que tu ne blesses personne. Troisièmement, comprends d'où elles viennent. Tu ressens des émotions pour une raison. Ton corps et ta tête sont en train de te dire quelque chose. Essaie de prendre le temps de comprendre pourquoi cette émotion s'est présentée à toi. Ça pourrait t'aider à l'accepter. Quatrièmement, choisis ton équipe. C'est important de t'entourer de personnes en qui tu as confiance. Tu peux essayer de parler de tes émotions avec tes amis, même si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Et cinquièmement, rappelle-toi que c'est temporaire. Les émotions finissent toujours par passer. Même si tu vis un moment désagréable, ces émotions ne te définissent pas. Et tu risques de voir passer une émotion positive plus vite que tu ne le penses. Bien, et
merci,
voilà.
Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet. Les émotions refoulées.
Je pardonne pour oublier, je pardonne pour respirer, pour arrêter de remuer les couteaux dans mes plaies. Je pardonne pour faire de la place, pour laisser glisser les angoisses et pour reconnaître l'enfant que j'étais dans la glace. Je pardonne contre toute attente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, pour échapper à l'emprise des années sombres, des âmes grises. Je pardonne au passé, au futur, pour les cris et pour les murmures, pour que ceux qui m'ont fait du mal restent seuls avec leurs mains sales. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur. La colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Que l'on se soit foutu de moi, pour ma gueule, pour ma voix, pour mes risques et pour mes choix. Bien sûr que ça reste là, mais je rassemble les miettes et je pardonne à tue-tête. Rien ne me hante, rien ne m'arrête, pas de rancune, aucune dette. Et pour tout ce qu'on ne m'a pas dit, tous les je t'aime, tous les merci qui sont restés au travers d'une gorge ou dans les airs. Tout ce qu'on ne m'a pas donné, je suis allée le chercher. Je pardonne à l'absence, au manque et au silence. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison. La rage m'est pas la rancœur. La colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Je pardonne à tort et à travers pour éprouver la lumière des jours qui naissent, des jours qui meurent, chaque étincelle, chaque lueur. Je pardonne et je veux espérer qu'on puisse aussi me pardonner. Te perdono, me perdono, pero recuerdo todo. Te perdono, me perdono, y lo recuerdo
todo.
Vous souhaitez écouter l'émission Folie Douce au moment qui vous convient le mieux? Branchez-vous sur notre site web pour accéder à notre canal radio sur YouTube, antenne.qc.ca, antenne.qc.ca.
Quelques instants avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce cette semaine, Pierre. On va nommer les chansons comme à notre habitude. Alors, oui. La première, on a entendu, c'est « Jouer ».
De Ariane Moffat.
La deuxième, « Ta main ».
De Ariane Roy.
Dans la deuxième partie de l'émission, « Tout savoir ».
De Adé.
Et à l'instant, « Je pardonne ».
De Zaz, quatre interprètes féminines.
Oui, oui, c'est vrai. C'est notre semaine féminine en chansons, en tout cas. Merci pour tout ça. Merci pour ton travail en régie également.
Ben, bienvenue, mon cher.
Et ton sujet, l'espresso et espresso allongé, c'était les émotions refoulées.
Oui.
Merci pour ton sujet. Notre invité en début d'émission, Jean-Philippe Bouchard, nous a fait mieux connaître la communication non-violente. Notre collaboratrice, Catherine Stassin, était aussi avec nous. Sa chronique, « Les bénéfices et inconvénients d'un vrai baiser ». C'est donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.